mais aussi autour du Salon Zen, autour de Paris, la France, le monde. On va, non seulement pour toutes les personnes qui sont là, mais aussi pour toutes celles que vous avez dans vos têtes ou dans vos cœurs. Donc, là, tout de suite, on vient de créer une bulle magique de protection, entre autres. Vous verrez, ça marche. Si jamais, dans ce que je dis, il y a des choses qui vous interpellent, ou qui, j'espère que ça va vous interpeller, mais des choses qui vous choquent, gardez-les bien là, en vous. Notez-les intérieurement ou notez-les sur un papier. Accusez réception de l'émotion que ça peut faire si je dis quelque chose qui vous surprend. Et c'est déjà un exercice en soi. Donc, de ne pas réagir immédiatement et gardez vos questions pour la fin. Voilà. Et si jamais, par exemple, dans ce que je dis, il y a quelque chose qui vous met en colère, je vous conseille de respirer dans la colère, parce que garder la colère jusqu'à la fin, ça va être dur. Par contre, après, votre question sera peut-être plus centrée et plus intéressante que sur la réactivité. On va en parler aussi de la réactivité. Je suis Claude Berthomieu, je suis psy depuis 40 ans maintenant, spécialisée en victimologie depuis environ une trentaine d'années, un peu plus même. Et j'ai aidé des milliers de victimes d'agression à renaître de leurs cendres. J'étais formatrice en entreprise pour la prévention des risques psychosociaux, la qualité de vie au travail. Donc à ce titre, j'ai formé à la gestion du stress en situation conflictuelle dans les milieux professionnels. Je travaillais avec des victimes de hold-up, de prise d'otage, de séquestration. Voilà. Maintenant, les victimes que je traite en particulier sont celles qui se font licencier. Et je suis née en 47. C'est important. Que je sois née en 47. Parce que d'abord, c'est l'année où ont été découverts les manuscrits de la mère morte. Et entre autres, les écritures des Esséniens. Une nouvelle vision des choses, déjà. Tout d'un coup, on sortait des... Vous savez, les manuscrits de la mère morte ont révélé des tas de choses sur les évangiles, entre autres, qui n'étaient... Nous, les évangiles qu'on a eus, par exemple, les chrétiens à l'arrivée, c'était des évangiles épurés, où on parlait pas de lavement, on parlait pas de trucs comme ça, quoi. 47, et c'est l'année où Gandhi a créé le concept de non-violence. Et pour moi, c'est important parce que c'est une de mes quêtes essentielles à travers toute ma vie, d'autant plus que j'étais quelqu'un d'extrêmement violent. Et donc, à ce titre, violenté aussi. C'est aussi l'année 47 où les USA et les URSS, c'est le début de la guerre froide. Hein, parce qu'on s'était un petit peu reposé après la guerre chaude, donc après la guerre froide. Et vous savez, cette guerre où il y a d'un côté les bons et d'autre côté les méchants. C'est peut-être ce qui m'a amené et qui a amené aussi cette conférence aujourd'hui à travailler en permanence sur la non-dualité ou la dualité. Donc le monde de toute façon a toujours été divisé, mais aujourd'hui, il semblerait que les divisions se soient multipliées. Ça, c'est une drôle de mathématiques. En réalité, nous fonctionnons tous sur un seul schéma récurrent, prendre le pouvoir sur l'autre. S'accaparer ses biens, le détruire, s'il ne partage pas notre vision du monde. En bref, une seule quête nous anime dans ce monde, c'est la domination. Et pour être les maîtres du monde. Alors, le navire tangue avec des déséquilibres géopolitiques complexes, instables, la démocratie qui perd du terrain et laisse la place à des tyrans mégalomaniaques accrochés à des notions de pouvoir totalement désuètes, mais pourtant encore bien vives aujourd'hui. Alors, si nous avons aussi peur aujourd'hui, par rapport à la thématique qui nous rassemble là, si nous avons aussi peur aujourd'hui dans ce monde occidental, c'est que, au-delà même de nos vies que nous sentons en danger, bien sûr, nous voyons notre civilisation, nos valeurs et nos acquis, notre mode de vie et sa relative sécurité menacés par un ennemi sans visage, invisible, infiltré, qui peut frapper n'importe quand et n'importe où. Alors, quand je dis ça, je suis sûre que vous pensez tous ou beaucoup à la même chose. Ouais, c'est vrai. Le terrorisme, toutes ces choses dont on nous rabat les oreilles, parce qu'effectivement, c'est une vraie réalité. Pourtant, moi, je ne vous parlerai pas des attentats, ni du système économique néolibéral, ni de ceux qui détiennent des clés de la boîte de Pandore, je ne vous parlerai pas des ennemis microscopiques qu'on trouve dans la nourriture, ni même du dérèglement du climat. Ma conviction, c'est que le diable, c'est-à-dire Dia de la dualité, n'est pas toujours là où on s'attend à le trouver. Moi, je vais vous parler de nos guerres intérieures et de leurs reflets sur le monde et de ce que nous pouvons faire pour devenir des humains plus responsables et en marche vers un monde nouveau, ou en tout cas différent. Parce qu'il est évident que la forme et les schémas qui règnent dans le monde d'aujourd'hui ne sont pas convaincants quant à leur efficacité. Je voulais appeler cette conférence « Les défis de la violence » parce que je crois que c'est un véritable défi que la vie nous lance au travers de la violence. À la fois sur le plan personnel et sur le plan collectif. La violence est comme une marche du diable pour nous inciter à nous élever, en tout cas à élever notre niveau de conscience. Et si le but des attentats ou les choses dont nous sommes victimes aujourd'hui de la violence est de nous déstabiliser et nous empêche de dormir, alors justement, réveillons-nous. Il est grand temps. Pour donner une réponse non violente à la violence, j'ai voulu d'abord comprendre ce qui se passe avant de vous parler même de la peur. Si vous regardez bien le cycle infernal de la violence, il est toujours le même. Hein. Ça commence toujours par quelque part de la précarité, de la pénurie ou de l'exclusion, voire même de l'humiliation, qui engendre des misères matérielles et ou intellectuelles. Ensuite, acculturation, illettrisme, avec une impossibilité de s'exprimer, très fondamentale, de s'exprimer. D'où des frustrations, d'où la colère, avec des désirs de revanche. Avec en même temps une fragilité psychologique des personnes exclues, donc de la manipulation mentale facile de la part des gourous ou des religieux mégalos, hein, ou même de certains politiques, qui engendrent des meurtres ou effectivement des attentats, qui engendrent de la stupeur chez les victimes, puis de la souffrance, des réactions des États qui se sentent menacés, ou des politiques avec des coalitions dans une logique de guerre punitive et juste, bien sûr. De part et d'autre, on se retrouve avec des guerres justes qui ont toute la volonté, évidemment, d'éradiquer les criminels de l'autre bord, de ceux qui ne pensent pas comme nous. Bombardement, destruction, désir de vengeance, renforcement des idéologies, voyez le cycle infernal. Et ça continue. Et au passage, il y a tous ceux qui s'enrichissent avec des ventes d'armes ou de drogue. Et c'est toujours les mêmes qui en profitent et toujours les mêmes qui en souffrent. Donc alors, après une agression, j'ai voulu partir de l'état des lieux. Sur le plan psychologique, qu'est-ce qui se passe? J'étais en train d'écrire ce que j'avais envie de vous dire aujourd'hui au moment de l'attentat de Nice cet été. Alors qu'est-ce qui se passe? J'ai examiné ce qui se passait en moi. D'abord, après la stupeur et le bouleversement, il y a la colère et quelquefois la haine. Le lendemain, j'étais allée chez mon marchand de journaux et au moment où j'entrais, j'entends « il faudrait supprimer cette sale race, l'éradiquer de la surface de la terre ». Suivi d'un gracieux « bonjour madame, qu'est-ce que je peux faire pour vous ?» Le sourire. Et là, en un éclair, je me suis sentie en colère contre cet homme, pas contre les terroristes. Il faut que je vous confie qu'en préparant cette conférence, je suis passée par beaucoup d'émotions, avec même l'envie de ne pas la faire. J'ai vu moi-même ma propre violence se réveiller. Et j'ai vu mes larmes couler par moments. Et d'ailleurs, il vaut mieux pas que j'en parle trop parce que ça recommence. Bon. Le fait est que une vibration négative engendre systématiquement une vibration du même acabit. Cet homme était en colère. Il m'a mise en colère, je me suis mise en colère. Nous avons du mal à échapper au phénomène des neurones miroirs. Ensuite, c'est l'incompréhension. Comme beaucoup, j'ai du mal à comprendre que les hommes, des hommes, veuillent supprimer d'autres hommes au nom d'une idéologie ou quelle qu'elle soit. Récemment, j'entendais le fils d'une amie dire, maman, il avait 10 ans, il disait, maman, j'ai peur de devenir raciste. Oui, moi aussi, par moments, j'ai peur. Parce que le racisme, la peur de l'autre, elle est inscrite au fond de nous, comme des vieilles mémoires, des vieux machins qui s'inscrivent. J'en reparlerai tout à l'heure. Nous avons peur de l'étranger, de celui qui ne pense pas comme nous, alors que fondamentalement, au niveau de mes valeurs et au niveau de ma réalité profonde, je me sens à 100 000 lieues de ça. Après l'incompréhension, il y a la peur et les conséquences. En tant que spécialiste et victimologue, je redoute les effets post-traumatiques de tels événements, parce que les effets post-traumatiques sur le plan personnel sont importants. J'entends des gens qui me disent, des clients qui me disent « je n'ose plus sortir ». Aller dans les lieux publics ou des rassemblements festifs, on ne sait jamais. Vous, à Paris, j'imagine que vous le ressentez aussi très fort, par moment. Ou même simplement en vous installant à une terrasse de café. Même en Provence, dans les coins les plus reculés, moi j'habite en Dordogne, dans le Périgord, 100 d'événements ont été supprimés cet été, par peur. Alors que je peux vous dire que le danger n'est pas très très présent non plus. Donc la sécurité gagne du terrain. Et notre besoin de sécurité de base et notre mode de vie hyper sécurisé, de fait, sont menacés. J'entends souvent les gens dire, le monde devient fou. Non, il ne devient pas fou. Ou alors il l'a toujours été. Il ne devient pas. C'est juste qu'on est juste plus au courant. Et je voudrais mettre un peu en perspective. On est aujourd'hui 50% moins en danger qu'il ne l'était à l'époque gallo-romaine ou jusqu'à la fin du Moyen-Âge. Vous savez que vous ne pouviez pas vous déplacer dans une forêt. Le bois de Boulogne, c'était un coupe-gorge. Enfin, peut-être pas que le bois de Boulogne. Je veux dire, c'est pas un bon exemple. Parce que... Bon, en fait, nous voudrions tous avoir des certitudes sur l'avenir et personne ne peut nous rassurer. Nous sommes en train de perdre nos repères parce que nos valeurs, nos plus fondamentales de respect de la vie, de respect de l'autre, sont bafouées. Alors après, il y a aussi le découragement. Moi, comme la plupart d'entre vous, je pense, je suis une idéaliste en quête de bonheur sur cette terre. Je suis tellement idéaliste que je pensais, il y a 40 ans, quand j'ai commencé à être psy, que 40 ans plus tard, il n'y aurait plus de psy. Pourquoi ? Parce que, vous rendez compte ? Parce que je pensais qu'on serait tous tellement évolués qu'on serait des psys les uns pour les autres. Et plus ça va, plus je me dis, ouais, mais on a besoin de psys encore. Donc je regrette pas, mais en tout cas, je croyais qu'il n'y en aurait plus. Et je rêve de paix et d'harmonie. Moi, je suis une enfant de 68. J'avais 20 ans en 68 et après, j'ai vécu le nouvel âge. Et je vois mon rêve par moments s'éloigner. Par moments, j'ai envie de baisser les bras aussi. Et de dire, tant pis, on va disparaître avec les dinosaures. Et en plus, ça sera bien fait pour nous. Parce que nous l'avons voulu, ce qui est en train de se passer. On l'a pas voulu, consciemment, mais on l'a laissé faire. La puissance aussi que je ressens. Comme beaucoup, par moments, je crois que je suis impuissante et que je ne peux rien y faire pour changer ce monde. Alors oui, je pense que cette hyper-violence déterminée qui nous arrive dessus nous lance un vrai défi. Allons-nous continuer à réagir à partir de la peur ou à commencer à agir pour la paix ou pour que ça change? C'est un défi sur le plan personnel parce que nous devons apprendre à maîtriser notre mental, à maîtriser nos émotions et nos réactions primitives et que ça demande un travail conscient et une vigilance permanente. Et c'est aussi un défi collectif. Puisqu'on sait que parmi les sources de la violence, il y a la misère et souvent même des siècles, je dis bien des siècles d'humiliation et de non-reconnaissance ou d'indifférence. Ne pourrait-on pas commencer par imaginer à co-créer un monde, une société plus juste et plus équilibrée, hein, une économie distributive par exemple. Mais j'ai dit que j'étais pas là pour parler de ça. En tout cas, où les ressources seraient mieux réparties pour que tout le monde ait à manger, à boire, à dormir et surtout à boire de l'eau non polluée. Parce que je tenais à le dire aussi, Le danger le plus fort aujourd'hui, ce n'est pas le terrorisme, c'est l'eau. Vous savez que l'eau, en ce moment même, tue 22 000 personnes par jour. Je me demande même si ce n'est pas par heure dans le monde. L'eau polluée, ça, c'est un vrai danger aussi. La violence, en tout cas, interpelle chacun d'entre nous et c'est par là que nous devons et que nous pouvons commencer. Parce que quand on n'a pas de pouvoir sur l'extérieur, et d'ailleurs on en a rarement en réalité, on en a sur nous-mêmes. C'est notre devoir d'humain et c'est en notre pouvoir. Je veux bien que vous entendiez ça, en notre pouvoir, et je vais tenter de vous le démontrer, ou tout au moins de vous donner quelques-unes, moi, de mes réponses personnelles, bien sûr, de ce que je peux proposer aussi aux gens qui viennent me voir. D'abord, je vais aller droit au but pour qu'on sache de quoi on parle. Pour moi, il n'y a qu'une seule réponse à la violence, et même à la peur qu'elle engendre, c'est l'amour. Ou si vous préférez des mots moins forts, déjà la tolérance et la compassion. Et que ces mots deviennent réalité, qu'ils s'incarnent. Et puis aussi l'engagement dans l'action, parce que on peut toujours causer, on peut toujours raconter des tas d'histoires, mais si on ne s'engage pas dans une action précise, là où on est, avec le voisin, avec notre famille, avec nos collègues de travail, hein, donc c'est l'amour en action, c'est ce que les Indiens appellent le karma yoga, l'amour en action. Avant, je voudrais juste vous parler d'une petite chose, c'est l'âge mental de l'humanité. L'âge mental, pour moi, de l'humanité, c'est l'adolescence. Parce que si les techniques ont évolué remarquablement depuis 30 000 dernières années, depuis les débuts de l'agriculture-élevage, juste après l'ère de la chasse-cueillette, je pense que l'humanité, elle est à peine un cran au-dessus de l'homme des cavernes. En termes de réactivité, on est bien d'accord, hein, pas en termes de connaissances. Parce qu'avec Internet, en plus, là maintenant, c'est de pire en pire. Non, en termes de on est à peine au niveau de nos réactions primaires et de défense, à peine au-dessus de l'homme de Néandertal, qui était l'enfance de l'humanité, et là nous sommes à l'adolescence. Cette adolescence, elle se caractérise par quoi? D'abord un grand malaise, ça c'est le moins qu'on puisse dire, traversons une crise, le monde occidental, c'est clair en tout cas, traverse une crise, la volonté d'en finir avec les valeurs des anciens, tout en ne connaissant qu'un seul modèle, celui qu'on lui a transmis. C'est-à-dire qu'on est contre, on veut en finir avec ce que nos pères nous ont donné, mais on ne connaît que ce modèle-là. Et c'est toujours le même schéma récurrent dont je parlais tout à l'heure. Et à ce niveau-là, en matière de transmission, le monde occidental a vraiment montré la voie à ceux qui nous terrorisent aujourd'hui. Hein, soyons clairs. Je regardais l'autre jour sur Canal Plus le studio de la terreur. Vous savez que la propagande de Daesh, elle est faite par des spécialistes, caméramans et réalisateurs d'Hollywood. Et ça marche, hein, c'est bien fait. Sauf que là, c'est pas des acteurs, c'est vrai. Et quand on meurt vraiment. Donc on est passé un cran au-dessus. Ensuite, il y a le désir de s'affirmer contre, dont je disais, pour définir son identité. Le besoin de conquérir, le besoin de prendre le pouvoir, ce dont je parlais. Autant de réflexes d'appropriation et de conquête. Aujourd'hui, 99% de l'humanité, et je dis bien 99% de l'humanité, est à la merci de tyrans qui ne sont que des enfants frustrés, violents, despotiques, auxquels on a confié les clés de la boîte. Donc l'humanité que nous sommes aujourd'hui, même très intelligente, ça n'a rien à voir avec votre intelligence personnelle, ni votre niveau de conscience évolué. Notre humanité n'a pas encore atteint l'âge adulte en termes de réaction et de réactivité. Nous fonctionnons encore sur les vieux schémas, alors qu'il est manifeste que depuis les années 60, nous sommes entrés dans une ère nouvelle. Une ère que Michel Salovkost, je ne sais pas si vous connaissez, a décrit dans l'entreprise du troisième millénaire. Il parle de l'ère de la communication et de la création. Marilyn Ferguson, déjà dans les années 80, parlait de l'ère du Verseau. On en parlait, on a essayé d'expérimenter des choses, et puis tout d'un coup c'est parti dans les nuées, mais là, aujourd'hui, c'est le moment. C'est le moment de mettre en acte tous ces merveilleux concepts. Et un maître soufi que j'ai suivi pendant des années, Pierre Vilayat Inayat Tran, j'ai eu la chance de le rencontrer et de l'écouter environ une dizaine d'années, nous disait que la transition allait se faire et n'allait pas se faire sans mal, et que nous devrions être prêts à affronter le pire. Les chrétiens, eux, parlent d'apocalypse. Vous savez ce que signifie apocalypse ? Ce qui était caché se révèle. Pour les hindous, nous sommes à l'heure de l'ère de Kali ou de Shiva, le destructeur des formes anciennes. Pas surprenant que nous traversions une zone de turbulence. Et c'est rien à côté de la zone de turbulence que traverse la Terre elle-même, celle que l'on appelle Gaïa. Hein ? On est un petit peu ébranlé en ce moment. Mais est-ce que vous savez comment s'écrit le mot crise ? Le mot crise s'écrit en chinois avec deux idéogrammes. Deux idéogrammes, un qui signifie danger, et puis il y a un autre idéogramme qui signifie, vous le savez, opportunité. Non, ben, je vois, il y a des gens qui sont bien branchés. Bon, ben, si je vous apprends rien, vous me dites, hein, je vais m'asseoir et puis c'est tout, hein. Voilà, ça signifie opportunité. Donc, c'est quoi ? Ça, c'est le couteau qui est au-dessus d'un bonhomme qui est assis sous un arbre. Si jamais il y a quelqu'un qui sait écrire chinois ici, je vois la dame qui me regarde, elle dit, mais qu'est-ce qu'elle écrit mal ? Un couteau, ça, c'est le préfixe du couteau qui est sur un arbre. Donc, une épée de Damoclès, quelque chose qu'on a au-dessus de la tête et qui est prêt à nous tomber dessus. Et ça, effectivement, c'est danger. Mais là, le bonhomme, il est assis, c'est un bonhomme, là. Il est assis auprès d'une table et il attend qu'est-ce qui va arriver de ça. C'est-à-dire, qu'est-ce qui va arriver de ce danger qui est en train de le menacer. Donc, la crise en chinois, veut dire c'est le moment de saisir l'opportunité du changement au cœur même du danger. La violence nous lance donc ce défi, c'est de changer et d'évoluer en conscience, je répète, vers un nouveau paradigme. Aucune mutation ne se fait facilement. On va dire que changer est bouleversant, on est d'accord. Il faut bien que la chrysalide s'ouvre et se désintègre pour laisser émerger le papillon. Il faut bien qu'il y ait quelque chose qui craque de la vieille forme, sinon le papillon n'émerge pas. Alors il y a quand même des obstacles à ce changement. Le premier obstacle chez nous, je parle toujours de nous, hein, c'est nos habitudes et nos conditionnements. Parce que on est bien d'accord que les habitudes ont la peau dure. Hein. Le cerveau humain, il est fait, on a trois cerveaux, on a le vieux, l'archéencéphale, c'est celui que je vais appeler Reptilius, c'est le reptilien en fait. Hein. Je l'ai appelé Reptilius, c'est le vieux cerveau. Ensuite, il y a Limbix, c'est moi qui les ai baptisés comme ça, c'est plus drôle, c'est le limbique en fait. Hein. Limbix, et lui, c'est émotion et mémoire. Ok ? Le celui qui est au milieu. Là. Et le plus haut, c'est Néo, comme Néo dans la matrice, vous savez. Donc, dans la logique, notre cerveau intelligent, le néocortex, il faut arriver à le convaincre qu'il n'y a pas de danger à changer. En fait, le néocortex, lui, il est convaincu qu'il faut changer. On est assez intelligent pour ça. Mais c'est Reptilius qui veut pas. Et Reptilius, il veut pas parce que lui, sa mission, son but, c'est uniquement une chose, c'est la survie de l'espèce. C'est la conservation, c'est un conservateur. Et le limbique, lui, chargé de la mémoire et de l'histoire personnelle, eh ben, il a plutôt tendance à se ranger du côté du reptilien parce qu'il dit, attends, on sait ce qu'on a, mais on sait pas ce qu'on aura. D'accord? Donc, Néo est tout seul. Et en plus, quand on est gagné par les émotions, notre cerveau intelligent, il n'arrive plus à penser. Donc, plus on a peur, plus on se retrouve bête. Enfin, je veux dire, pas bête et stupide, mais on est réduit à un niveau de réactivité primaire. Et bête et méchante, oui. Voilà, donc Néo, il aimerait bien craquer la matrice, comme dans le film, mais il a du mal à raisonner correctement quand il est envahi et encombré, en plus de nos vieilles croyances et de nos programmations limitantes. Je vous apprends rien là-dessus. Hein. Mais rassurez-vous, il y a déjà une chose sur laquelle nous allons pouvoir compter, c'est le cœur. Il y a une intelligence qui est en train de se développer, qui est l'intelligence du cœur. Alors vous me direz, ben ça fait longtemps que la mienne est développée d'intelligence du cœur. Attends, je t'ai pas attendu quand même. Ouais, non. À un niveau individuel, je suis persuadée que oui, qu'on en a envie. Moi aussi, j'ai une intelligence du cœur très très développée. Mais qu'est-ce que je peux être bête par moment? Qu'est-ce que je peux être égocentrée? Parce que on m'a dit un truc qui me faisait du mal. D'ailleurs, il y a des trucs qu'il faut pas y toucher. D'accord? Donc, on a beau être très intelligent et on a beau savoir tout ça, comment le mettre réellement dans un comportement différent dans la vie? Et puis, obstacle numéro 2. Donc, on sait bien que notre cœur va nous sauver, déjà. Je vous sème les... Obstacle numéro 2. C'est, avons-nous vraiment envie que ça change? Avons-nous vraiment envie que ce monde change? Moi, je me suis posé la question et je me suis dit, mais c'est difficile de faire un pas dans l'inconnu. Parce que nous sommes, mais prenez-en conscience vraiment, moi j'en ai pris conscience, c'est terrifiant pour moi. Je me sens constamment au bord d'un précipice. Je dois faire un pas dans l'inconnu. Comme dans le film, comment il s'appelait, Indiana Jones, vous savez, pour la quête du Graal, quand il lui dit, il faudra que tu fasses un pas dans le précipice. Et là, il y a un énorme précipice, puis il fait un pas dans le vide, et là, il s'aperçoit qu'il y a un petit pont sous ses pieds qui se dessine. Est-ce que, pour moi, c'est ce niveau de confiance qu'il faut qu'on atteigne. Mais, on a les chocottes. Que sera ce nouveau monde? Vais-je perdre mes privilèges? Parce que faut pas se raconter d'histoire, nous voulons la paix dans le monde. Idéalement, pratiquement, on serait déjà bien content d'avoir la paix chez nous. C'est-à-dire que la guerre, elle s'arrête à nos frontières. Et si on a la paix chez nous, vous savez ce qui se passe? Eh bien, on replonge dans nos vieilles habitudes. Pourquoi on est secoué là? C'est parce que tout d'un coup, la guerre nous envahit. Ici, là, sous nos fenêtres. Et tout d'un coup, ça nous dérange. Donc, rester en contact avec la souffrance du monde et la souffrance des gens qui, de par le monde, crèvent de soif, de faim et victimes de guerre, et tous les réfugiés qui abondent aujourd'hui à cause de cette soi-disant folie du monde. C'est facile de le savoir, mais là aussi, il y a une espèce d'indifférence qui est en train de se faire à cause des médias, une espèce d'insensibilisation. Du mal à résister au poids des mots et au choc des photos, au bout d'un moment, on s'anesthésie. Regardez les jeunes aujourd'hui, même moi d'ailleurs, hein, je peux regarder un film de zombies, mais sans sourciller. Par contre, si je regarde les nouvelles... Et si je regarde la réalité qu'on me balance les nouvelles, quoi, les vraies nouvelles, j'y regarde plus. Je les regarde plus parce que ça me rend malade. J'ai arrêté de me polluer en écoutant le journal télévisé ou en le regardant. Je veux plus. Parce que chaque fois je pleure, attendez, ça va, ça fait du bien de pleurer. Mais quand même. Ou alors ça me met en colère. Donc, deux croyances utiles. Si vous voulez que ça avance. Pour moi, il y a un postulat de base d'abord. Je crois que nous sommes 100% créateurs de nos vies personnelles, responsables de nos actes, de ce qui nous arrive, de nos relations avec les autres, et 100% responsables de ce qui se passe dans la société, voire responsable du monde tel qu'il est aujourd'hui. Alors, je dis 100% responsable, j'ai pas dit 100% coupable. La responsabilité, c'est res sponsa, on va dire responsable, c'est res la chose, réponse responsa, la capacité. Vous savez le suffixe to be able to en anglais, la capacité, on est capable de donner une réponse à la situation, à la chose. C'est déjà plus encourageant que la culpabilité, qui nous dit que t'es coupé du truc, tu assumes pas du tout, oh non non, c'est pas de ma faute. En plus de ça, il y a un mot qui est caché dans ce mot, qui s'appelle sponsa. Vous le voyez, sponsa au milieu. Et en latin, sponsa, ça signifie la fiancée. Et la fiancée, c'est la promesse de l'union. La promesse de la réunification. Ça veut dire que si vous assumez la responsabilité de ce qui se passe dans votre vie, vous, et moi dans la mienne, entre autres, eh bien, je suis en train de me réunifier. Je suis en train de me répouser. Enfin, répouser, je sais pas comment dire. En tout cas, je ne divorce plus de moi-même. Et donc, je ne divorce plus de toi, de toi, de toi. Je ne suis plus séparée. La solution, c'est aussi d'arrêter de vivre dans ce monde de dualité où il y a les bons et les méchants. Donc, ça, c'est hyper utile de savoir ça. Je suis capable de donner une réponse à la situation. C'est très encourageant. Alors, deux croyances utiles. D'abord, croire que le problème et la solution sont à chacun de nous. Les alchimistes, ils disent ce qui est à l'extérieur est comme ce qui est à l'intérieur. Et ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Alors, autrement dit, simplification un peu à outrance, que les alchimistes me pardonnent, s'il y en a dans la salle. Ça veut dire, je manifeste à l'extérieur ce que je suis à l'intérieur. Parce que si le mal existe, il est d'abord au cœur de nos dualités personnelles. Et la violence, la situation mondiale, ne serait que le reflet de mes divisions intérieures, le miroir de mes ombres, de ma culpabilité, de mes colères enfouies, de mes frustrations ou de mes peurs cachées. Et pourquoi il y a de la violence? Eh bien, parce que quand les choses se révèlent, elles le font avec force. C'est un peu comme le calot du volcan. Tout d'un coup, ça explose. Parce que si nous mettons trop le mouchoir sur notre part d'ombre, elle va réclamer son dû, la part d'ombre. Et en général, elle le réclame à corps et à cri. Alors, sur le plan personnel, c'est du burn-out, des maladies. Et sur la société, ben c'est des exactions, des voies de fait, des agressions. En fait, notre société est malade de nos propres contradictions. Et pour moi, la violence n'est qu'une des conséquences de cette ombre qui évite la lumière de la conscience. D'où la nécessité de devenir clairement conscient et d'arrêter de dire « c'est la faute de l'autre ». Dieu merci, nous sommes aussi le miroir de l'amour. C'est une chance. De la bonté, de la solidarité, de la beauté dans le monde, de notre capacité à nous émerveiller. Et de tout ce que, dans la nature par exemple, qui n'est pas ici touché par un beau paysage ou un coucher de soleil, ou qui n'est pas touché par un geste tendre et d'amour? Au cinéma, par exemple, moi, je pleure toujours quand je vois de l'amour. Ce qui m'a fait le plus pleurer dans ma jeunesse, c'était La Petite Maison dans la Prairie. Parce que c'était pas violent du tout, c'était l'amour. Il y a toujours un moment où je craquais. Alors, croyance utile numéro 2, et là, vous allez voir que je vais vous raconter une histoire pas possible, c'est croire que si je choisis d'évoluer en conscience, et si je change, tout peut changer. L'humanité entière peut basculer dans un nouveau paradigme. Et là, ce qui m'a donné vraiment la foi dans cette histoire, c'était l'histoire du centième singe. Combien de personnes dans cette salle connaissent l'histoire du centième singe ? Pour savoir si je la raconte. Ah oui. Bon, je peux la raconter. Alors, tenez-vous bien, parce que cette histoire, à partir de maintenant, va changer votre vie. Et va vous redonner un espoir pas possible. C'est corroboré par ce que, là, en physique quantique, ils appellent les champs morphiques ou morphogéniques. Alors, voilà ce qui s'est passé. C'est Ken Keyes Jr., qui est l'auteur du Centième Singe. Dans les années 50, des Japonais ont fait une étude sur une espèce de singe, le Macaca fuscata, pas fruscata, fuscata, qui a été observé à l'état sauvage pendant une période de 30 ans. Et en 52, sur l'île de Koshima, des scientifiques nourrissaient les singes avec des patates douces qui balançaient sur le sable. Les patates douces crues, bah, ils adoraient ça, les singes. Et ils les aimaient malgré les saletés qu'il y avait autour. Et puis un jour, une petite femelle âgée de 18 mois, qu'ils ont appelée Imo, ils auraient dû l'appeler Inno, innovation, enfin c'est... Ouais, se mit à laver sa patate douce dans le ruisseau. Et elle s'est aperçue que c'était bien meilleur, puisqu'il n'y avait pas toutes les saletés autour. Et elle a enseigné ce truc à sa mère, et elle a enseigné ce truc à ses copines de jeu, qui l'ont enseigné à leur mère. Et puis les mères, eh ben, elles ont essayé de l'apprendre à leur mec. Ça a été plus dur. Je ne voudrais pas faire du sexisme à la bête. Mais seuls quelques singes adultes qui imitèrent leurs enfants apprirent le nouveau comportement qui devient une amélioration sociale. Et les autres singes adultes conservèrent leurs habitudes de manger les patates douces sales. Ben, je note quand même que c'est là que c'est pas seulement les femmes qui ont initié le truc, mais je pense quand même que là, ce qui est important à retenir, c'est que les parents ont imité leurs enfants. Et pas l'inverse. Et à l'automne 58, un certain nombre de singes de Koshima lavaient leurs patates douces. Le nombre demeure, exact demeure inconnu. Mais, c'est là qu'il s'est passé quelque chose de fantastique. Supposons qu'un matin, le soleil s'est levé et qu'il y avait 99 singes sur l'île qui avaient appris à laver leurs patates. Un peu plus tard ce matin-là, un centième singe a pris le comportement et s'est mis à laver sa patate. Et alors quelque chose d'étonnant s'est produit. Le soir, quand le soleil s'est couché, l'ensemble du groupe des Macaca fuscata laver leurs patates douces, l'ensemble, peut-être un ou deux qui restaient, voilà, comme si l'énergie additionnelle de ce centième singe avait créé une sorte de percée de la conscience collective. La suite de l'histoire, c'est que au même moment, dans les autres îles, parce que vous allez me dire, bah oui, ils ont appris le comportement, alors finalement ils ont modélisé. Non, non. Ce qui s'est passé, c'est que dans les autres îles, en même temps, tous les singes de la même espèce ont appris à laver leurs patates. Ils sont allés spontanément la laver. Et pas simplement sur les autres îles, mais aussi sur le continent. À Takasai Kiyama, qui est sur le continent, tout le monde lavait sa patate. C'est ainsi que le macaque japonais fut nommé le laveur de patates. Donc il est vraiment question d'une conscience et d'une masse critique qui a été atteinte à un moment donné. Il y a deux clés. Pour que le changement soit possible, il ne suffit pas qu'un petit groupe adopte une attitude différente ou qu'un petit groupe se mette à imposer sa façon de faire par la coercition sur un autre groupe. Toi, tu vas penser ça, tu vas prier comme ça. Non, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de l'accession d'un groupe à un niveau de conscience plus élevé parce qu'il y a eu une masse qui a été atteinte. Alors, il y en a qui vont me dire, mais... Vous rendez compte ce que c'est? C'est un peu comme si, quand on parle de la mémoire akashique, ça vous dit quelque chose, la mémoire akashique? Cette espèce de disque dur de l'humanité qui serait autour de la planète, qui aurait inscrit dans sa mémoire toutes les expériences individuelles qui se en sommation vont s'additionner les unes aux autres, et tout d'un coup, il y en a un de plus, et ça bascule. C'est-à-dire que dans cette nouvelle prise de conscience, son champ d'action à ce moment-là s'étend de telle sorte que cette prise de conscience est adoptée par tout le monde. Et c'est le miracle des deux clés réunies. Hein ? Est-ce que vous percevez l'impact de ce phénomène sur notre avenir ? Et ça ne veut pas dire qu'il faut... On n'est pas en démocratie dans ce domaine. Hein ? Ce n'est pas 50% de la planète plus une. Ce n'est pas 3 milliards de personnes plus une. C'est un certain nombre de personnes qui ont conscience. Un peu comme quand vous mettez une petite bougie dans une cave sombre, eh ben, la petite bougie va déjà disperser l'obscurité autour d'elle. Et puis après, on met une autre petite bougie, elle va encore disperser l'obscurité autour d'elle. Et puis, on n'a pas besoin que l'ensemble des bougies soient allumées pour que l'ensemble de l'obscurité soit dispersée. Faites l'expérience. Voilà, donc aujourd'hui, bon, c'est clair qu'il y a urgence, je ne vais pas vous convaincre là-dessus. En tout cas, nous devons évoluer à titre personnel et nous rassembler pour que la co-création vers un monde nouveau puisse se faire. Donc au niveau individuel, ce qui compte, c'est la prise de conscience individuelle et le changement de comportement qui est à la clé. Et au niveau collectif, c'est le nombre. Et entre les deux, c'est la masse critique et la solution. Alors, la question que j'ai envie de vous poser là tout de suite, est-ce que vous avez envie de contribuer à ça ? Imaginez une certaine masse critique de terriens éveillée. Quand elle sera atteinte, le changement se fera de lui-même. Est-ce que vous avez vraiment envie d'essayer d'être le centième sage ? Moi, en tout cas, ça m'anime. Petit moment, juste pour vous parler des clés du changement individuel. Je peux reprendre le pouvoir sur tous les secteurs de ma vie. Et si je peux, vous pouvez, croyez-moi. Enfin, c'est une façon de parler. J'ai le pouvoir de faire face à mes peurs. Pourquoi ? Parce que le diable, entre guillemets, se nourrit de la peur. Et déjà, il faudrait arrêter d'avoir peur de la peur. Au fond, le mal, c'est la peur. Parce que la peur, elle nous paralyse, elle nous permet de renforcer nos croyances. Attends, j'avais bien raison, je l'avais prédit, je l'avais dit. Hein ? Alors que si nous restons centrés dans le cœur, il n'y aurait que de l'amour à partager. Ensuite, j'ai le pouvoir d'apprendre à maîtriser mon mental. Parce que le reste, c'était pas intéressant, ça. J'ai mon ami qui me dit « je vais noter les trucs intéressants ». Ça fait que 3/4 d'heure que je parle. Bon, j'accélère. Non, non, mais merci. Nous faisons du clown ensemble. Parce que j'anime aussi des stages de clown, j'ai oublié de vous le dire tout à l'heure. J'ai le pouvoir de maîtriser mon mental. Donc d'abord, j'ai le pouvoir de faire face à mes peurs et arrêter d'avoir peur de la peur. Ensuite, j'ai le pouvoir de changer de vibration en changeant ma façon de penser. Parce que vous savez, il y a des gens qui ont dit... Des scientifiques qui ont fait des expériences sur... Nous avons chacun un niveau vibratoire personnel. Hein. Il y a des gens sûrement au Salon Zen qui vous mesureront ça très bien. On a un niveau de vibration au niveau physique, au niveau corporel, mais et au niveau mental. Et si vous avez un niveau de vibration au niveau du cœur qui s'équilibre avec votre niveau de vibration au niveau du physique, et je vous dis pas comment on fait, enfin si, tout ce que je raconte, c'est aussi une manière d'y arriver, eh bien, il y aurait plus de maladies, il y aurait plus rien, même moi, je marcherais sans canne. Pour vous dire que c'est pas encore équilibré, quoi. Bon, j'ai le pouvoir de transformer mes émotions négatives en sentiments positifs. J'ai même le pouvoir de sourire des choses et parfois d'en rire. Ça, je sais faire avec le clown, c'est pratique. J'ai aussi le pouvoir de maîtriser mes mots. J'ai aussi le pouvoir d'être vigilante sur ce que je dis ou sur ce que je véhicule. Vous savez que le mot c'est l'aboutissement déjà de la pensée, hein, ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, mais le mot, l'acte même de formuler, c'est déjà une façon de donner la forme, de créer. Hein? Dieu nous a fait à son image, il paraît, moi je pense que c'est plutôt nous qui avons fait l'inverse, mais bon, l'idée c'est que dans imaginer, il y a magie. Dans image, il y a magie. Donc si je conçois l'image et que je la formule, je la mets en acte, je la crée déjà, je la conçois. Et la vibration, c'est le verbe, c'est le son. Le verbe s'est fait chair. Donc tout ça, la parole, elle peut devenir... Donc faites attention à ce que vous dites, c'est ça que je veux dire. Donc chaque fois que vous renforcez l'imagerie négative du monde, chaque fois que on dit « Oh bah t'as bien raison, on est mal barré », chaque fois qu'on essaye d'encourager une copine en lui disant « Bah oui, c'est un salaud ton chef, c'est clair. » Chaque fois qu'on fait ça, ou ton mari, mais quitte-le, cette espèce d'enfoiré. C'est vrai que par moments on a envie de le dire et qu'on le pense très fort quand on a une amie qui souffre ou un copain qui souffre à cause de sa femme. D'accord ? C'est sûr qu'on a envie de leur dire « Mais arrête ça !» C'est juste de dire à quelqu'un « Arrête ce comportement si ce comportement ne te convient plus. » C'est juste de lui dire ça. T'es pas content dans cette situation, quitte-la. Ça, c'est bien. Mais nourrir la négativité de l'autre en renforçant ses croyances à propos de son mari ou de son père ou de sa mère, peu importe, ça, c'est pas aidant. Et ça, nous le faisons beaucoup, de nourrir la négativité. Hein? Peut-être pas vous, hein. Bon, enfin bon. J'ai aussi le pouvoir de transformer, je vous l'ai dit, je peux enrichir le champ morphique, ça c'est clair, en étant le centième singe. Et j'ai quelque chose aussi dont je vous parlerai tout à l'heure. J'ai lancé une espèce d'opération, que j'ai déjà ouvert une page sur Facebook, mais elle est vierge, donc elle vous attend. Être un point de lumière. Pourquoi attendre d'avoir de l'amour pour en donner ? Pourquoi attendre de recevoir de la lumière pour en redonner ? On n'est pas des lunes. Devenons des soleils. Mon maître soufi, dont je vous parlais tout à l'heure, que j'ai suivi pendant quelques années, disait tout le temps, devenez comme le cristal. Le cristal a le pouvoir de capter la lumière, mais il a aussi le pouvoir d'émettre de la lumière. Donc j'ai créé le projet phare. Et vous savez ce que ça veut dire, phare ? Ça veut dire personne hautement avisée, responsable, enthousiaste et solidaire. Voire souriante, vous pouvez rajouter, si vous voulez. Hein? Phare. Ce projet, d'ailleurs, vous pourrez le retrouver sur mon site, destresspsy.com, où je vous fais un cadeau en plus. Un rêve éveillé, une relaxation à la rencontre du messager personnel. 40 minutes de rêve éveillé dirigé. Quand vous irez demain, vous pourrez tout de suite le télécharger. En tout cas, le projet phare, je ne l'ai pas lancé encore, mais il va rentrer dans un plus vaste projet qui va s'appeler Luminescence. Et puis ce projet phare, après, je ne fais que l'ouvrir, mais après, ça va devenir les initiatives de chacun. Non, hautement avisé, responsable, enthousiaste et solidaire. Je voudrais revenir sur nos peurs un petit peu. J'avais choisi d'en traiter trois. L'insécurité, la peur de l'autre et la peur de la mort. Le sentiment d'insécurité. Je me souviens quand j'étais jeune psychothérapeute, je donnais des stages, des formations, des séminaires à Bilbao, au Pays Basque espagnol. Et c'était en pleine guerre d'ETA, vous savez, avec ETA qui mettait des bombes régulièrement. Et il n'était pas rare que j'anime mon stage avec une bombe qui explosait à 3 kilomètres. Et quelquefois, même en dessous de la salle de séminaire, il y avait un bus qui était renversé par des gens en émeute. Bon, on finissait par effectivement vivre au milieu de tout ça. Puis un jour, quand même, on était assis sur une place en train de boire un pot à la fin d'un stage. Et puis tout d'un coup, une émeute et une bombe explosent sur la place d'à côté. Et moi, évidemment, le premier réflexe, je me lève pour partir. Et là, j'ai mes stagiaires, que j'étais censée aider d'ailleurs dans leur développement personnel, qui se marrent et qui me regardent et qui me disent « Où tu vas ?» Ben, je dis « Je m'en vais. » Il y a quand même des gens à côté qui sont en train de... Et il y en a une qui était une ex de Théa, qui était venue dans mon stage pour se convertir à la non-violence, disait-elle. Qui me regarde en se marrant, qui me dit « Tu crois qu'ailleurs, t'es plus en sécurité ?» Ah, je me suis rassise. J'ai commencé une autre limonade. et je me suis dit, elle a raison. Il n'y a pas de lieu dans le monde où je puisse me sentir en sécurité absolue, ça n'existe pas. Le seul lieu où il est possible d'être en sécurité, c'est en soi, centré sur l'être et au présent. Je dis bien au présent. Dans la conscience de votre présence, c'est-à-dire presque éternelle, comme disait Eckhart, Eckhart Tolle, donc le pouvoir du moment présent. Et une certitude, hein, pour un être vivant sur cette planète, oubliez l'idée de la sécurité absolue. Et c'est justement parce que nous ne sommes pas en sécurité permanente que nous avons évolué, que nous nous sommes adaptés. Si on est en sécurité, on ne bouge pas. Attention, et j'ai bien dit s'adapter, mais ça signifie pas s'habituer ou banaliser. Parce que mon dentiste, le lendemain, là, d'attentat, il me dit, le pire, c'est qu'on va finir par s'habituer. Il faut pas s'habituer à l'insécurité, au conflit. Il s'agit au contraire, parce qu'on finirait par être dans un état de super protection permanente, et nous finirions par être en hypervigilance, et donc en réactivité accrue, et c'est pas ce qu'on cherche. Ou pire, on l'a dit tout à l'heure, de l'indifférence. Donc, on commence comment? Eh bien, pour vivre tout ça, par rapport à l'insécurité, il faut commencer déjà par s'accepter avec ses propres émotions. Vous savez que derrière chaque émotion négative, dite négative, parce que pour moi, les émotions ne sont pas négatives, même la colère, c'est pas négatif. Et déjà, derrière chaque émotion négative, il y a la contrepartie positive. Derrière la colère, c'est quoi? Non? Ça serait le contraire. Derrière la colère, c'est la force. L'envers de la colère, c'est la force. L'envers de la tristesse, c'est quoi? C'est l'ouverture du cœur. Quand on pleure, le cœur s'ouvre. Khalil Gibran disait, les larmes, c'est l'eau qui creuse le puits de l'amour. Vous savez, dans le prophète. Et puis derrière la peur, l'envers de la peur, c'est la vigilance. Donc, il s'agit d'être des vigies en haut, c'est-à-dire des gens capables d'observer et d'anticiper. Et quand je dis observer, c'est observer la réalité, mais c'est aussi anticiper. C'est vrai que se tenir au courant, pas simplement ce que les médias nous racontent, parce que eux, ils vous paralysent, mais aller s'instruire un peu de ce qui se passe. Dans l'écologie, dans machin, etc. Mais ça, vous le faites déjà, sûrement. Mais anticiper. C'est parce que nous n'avons pas suffisamment anticipé que nous en sommes là aujourd'hui. Hein? C'est aussi anticiper sur le plan personnel, c'est suffisamment se connaître. Comment je peux anticiper mes réactions? Quelqu'un me dit dans les agressions à main armée, on peut pas savoir à l'avance comment on va réagir. C'est pas vrai, ça. On peut savoir à l'avance comment on va réagir. Si vous êtes d'un tempérament à être plutôt dominant, ou plutôt réactif, ou plutôt contre-attaque, vous allez réagir avec la contre-attaque. Si vous êtes d'un tempérament plutôt, je préfère fuir, ou rester passif et ne rien faire, ce qui est d'ailleurs plus intelligent la plupart du temps, vous réagirez comme ça. Et les gens... J'en ai sauvé quelques-uns sûrement dans les agressions à main armée parce que en anticipation parce que il y en a une qui me disait mais je vais pas les laisser faire ces espèces d'enfoirés, ils vont gagner en 3 minutes ce que moi je gagne en 1 an. Mais j'ai dit oui mais dans ce cas-là t'es morte parce que face à quelqu'un qui a une arme ben on dit rien. Mais ce qui est valorisé dans notre société c'est la contre-attaque. Ce qui est valorisé dans notre société c'est la violence. C'est la réponse violente, on est d'accord. Alors que il est très intelligent quelquefois de fuir ou de se soumettre. Mais la soumission, c'est pas viril ce truc. Je suis sérieuse, hein, parce que c'est véhiculé à l'école, c'est véhiculé partout. Donc moi, je l'ai vu avec des tas de gens qui me disent, autant. Et même, vous avez des gens qui se sont soumis pendant un hold-up ou une agression armée et qui s'en veulent après. J'ai été lâche. Mais j'ai dit non. T'as été très intelligent. Oui, mais j'ai pas... Pourquoi la personne était mal ? Parce qu'elle n'avait pas choisi sa réponse. Elle l'avait faite malgré elle, j'allais dire. Je me souviens d'un gars qui s'était caché derrière une armoire, sauf que comme il avait un gros ventre, il y avait le ventre qui dépassait. C'était la politique de l'autruche. Il me dit, j'ai fait l'autruche, je me suis caché derrière l'armoire. Et les autres, ses collaborateurs, étaient morts de rire. Oui, mais on voyait ton ventre, alors c'est pareil. Mais il en était malade après coup, quoi. On me voyait, bah oui, on te voyait. Donc, vous avez compris que nous pouvons réagir de manière soit violente, soit contre-attaque, mais en tout cas que celle qui est valorisée, c'est la contre-attaque et c'est la violence. Partout. Combien de fois on entend des parents dire à leur fils, tu t'es pas laissé faire dans la cour de récré, c'est bien. Tu lui as filé un pain, c'est bien. Peut-être pas vous, mais encore beaucoup de gens. Tout à l'heure, je vous parlais de la peur de l'autre, de celui qui ne ressemble pas. Et là, à ce sujet, nous partons toujours du présupposé que notre façon d'agir, notre morale, notre cadre est le bon cadre, et celui de l'autre, le mauvais cadre. Déjà, ça, c'est une dualité. Pourquoi est-ce que nous tentons toujours, mais vous, je le fais encore, vous le faites sûrement, pourquoi nous tentons toujours d'imposer notre vision du monde à l'autre ? Moi, en ce moment, je suis en train de vous parler. Vous pourriez me dire, c'est une tentative d'imposer ta vision du monde à moi. Non, toute communication est une tentative d'influence de toute façon. La manipulation, elle est dans l'intention de celui qui tient le couteau, hein, si c'est pour un coupage ou pour tuer quelqu'un. Elle n'est pas dans l'outil lui-même. Donc ce que je vous dis, vous le prenez si vous voulez ou vous le prenez pas, peut-être qu'un mot va vous servir ou peut-être pas. C'est pas grave. Ça vous empêche pas de communiquer ce que vous pensez. Mais on n'est pas obligé de vouloir toujours imposer sa vision. Par la force, en général. Voilà. Qui, dans cette salle, n'est jamais entré en conflit avec quelqu'un qui ne pensait pas comme lui ? Non, mais dénoncez-vous, allez-y. C'est bien. Non, jamais ? Oh ! Qui entre en conflit quand on n'est pas d'accord ? Bon. Le danger, vous savez, quand on est menacé, on parlait de l'insécurité tout à l'heure, j'ai entraîné des agents d'accueil dans la banque, dans les bus, partout, pendant 30 ans. Et le danger, j'ai constaté, ne vient pas forcément de celui qui tient l'arme. Il vient de notre façon de réagir à la situation, qui va accroître ou diminuer le danger. Je me souviens d'un gars qui avait une morale, qui disait « dans la vie, il faut rester calme ». Faut toujours être paisible. Et l'agresseur en face lui disait, bon, passe par là, fais par ci, et puis hurlait, évidemment, ils étaient trois, ils étaient en train de hurler. Il lui a dit, allez, fais ci, fais ça. Et tout d'un coup, le gars qui disait, mais c'est pas la peine de vous énerver, monsieur, on va vous donner l'argent, mais calmez-vous, c'est pas la peine de vous énerver. Vous pouvez nous le demander poliment, gentiment, vous n'êtes pas obligé d'hurler. Il n'avait absolument pas tenu compte du fait que l'agresseur, lui, il était hystérique et qu'il avait très très peur. Et qu'il avait 3 minutes pour faire son truc, c'est tout, hein, pas de temps de discuter. Donc, mais calmez-vous, monsieur. À tel point qu'à un moment donné, le mec, il lui a filé un coup de crosse sur la tempe en lui disant « Ta gueule, papy, je veux plus t'entendre. » Donc, ce monsieur, en disant « Je veux la paix, je veux le calme », était aussi violent que le mec qui avait l'arme. Et je l'ai mis dans mon livre, cette histoire, parce que le livre que, dont vivre, je vous ai pas dit que j'avais écrit un livre, « Vivre après une agression », Vivre après une agression, le livre Vivre a été écrit uniquement sur les agressions dans les banques ou dans les pendant les années où j'ai travaillé avec des personnes au guichet dans le milieu professionnel. Et je parle beaucoup du choc post-traumatique, donc à ce titre-là, c'est utile. Et je parle aussi de l'ombre du mal, le masque de l'ombre et l'ombre du masque, donc de l'ennemi en face. Donc il n'y a pas que les histoires d'agression verbée. Moi-même, j'ai été victime d'agression, évidemment, hold-up, puisque j'écrivais dessus, il a bien fallu que je fasse l'expérience. Voilà, mais j'ai pas commandité les méchants, hein. Mais j'ai bien compris que je m'étais pas mis là par hasard. Heureusement, dans la vie, la maîtrise de soi est possible. On peut agir sur notre réactivité. C'est ce que je fais dans mes stages, c'est ce que je fais dans mes formations. J'apprends aux gens à... parce que je leur dis, l'émotion, de toute façon, face à une agression, elle est inévitable. Vous aurez inévitablement l'estomac ailleurs, la tête dans les nuages... Et vous tremblerez, vous aurez peur, c'est normal. L'émotion est normale. Mais que faire de cette émotion pour ne pas réagir d'une manière primitive? Ça, c'est la question. Quelqu'un m'a dit un jour, mais moi, je suis pas du tout violent, moi, je réagis pas du tout par le conflit, jamais. Moi, je laisse faire et je suis très gentille, très calme, je suis non violente. Mais c'est pas vrai. On n'est pas forcément non violent parce qu'on peut pas réagir. D'accord? C'est toujours une histoire de choix. La non-violence n'est pas un état par défaut, comme on dit en ordinateur. Elle doit faire l'objet d'un choix conscient. Je vous renvoie d'ailleurs à un livre merveilleux qui s'appelle « Le choix de la non-violence ». De toute façon, que l'on contre-attaque ou que l'on se soumette, on a un problème. Qu'on soit dominateur ou victime, même schéma. Dans les deux cas, on a un problème. Je pense que les deux vont devoir travailler sur la confiance en eux-mêmes et sur l'estime de soi. C'est là où je voulais en venir. C'est que la première réconciliation à faire, tout à l'heure je disais, c'est s'estimer soi-même. Mais pas, c'est pas de l'égocentrisme, c'est s'aimer vraiment ou se remettre en contact avec cet être intérieur qui, lui, ne risque absolument rien. Vous, ma peau, mon corps risque, oui. Mais si je rentre en contact avec cet être, l'être qui est en moi, je ne risque rien. J'ai un ami qui dit toujours, rien de ce qui est réel ne peut être menacé. Déjà, s'aimer soi-même, c'est pas si simple. Donc, est-ce qu'il y en a combien qui se disent tous les matins en se regardant dans la glace, salut, tu sais que je t'aime, toi? Pas tous les jours, mais commence. Ouais, on a un centième singe là qui est pas loin d'arriver. Tous les jours, désormais, vous allez vous regarder dans la glace tous les matins en disant « Salut, tu sais que je t'aime, toi ?» Et vous allez faire aussi une chose, c'est que quand vous serez triste et malheureux, eh ben vous irez aussi devant la glace. Je conseille ça dans un livre auquel j'avais collaboré avec, comment il s'appelle, le docteur Rire, là, docteur Sourire. Chalère, oui, tel Chalère. Alors, j'ai oublié, on travaillait ensemble quand tu étais jeune. Et j'avais collaboré à Rire, mode d'emploi, ou La joie, mode d'emploi, je sais plus. Et je disais, vous avez un souci, vous avez un chagrin, vous avez un problème. Acceptez de vivre votre émotion, acceptez de la ressentir. Tout est accueilli. Et accepter, c'est le maître mot. D'ailleurs, ça va être l'objet de la première webconférence que je vais faire par la suite. C'est accepter. Pour entrer dans la nouvelle conscience, le nouveau paradigme, faut déjà commencer par accepter de voir la réalité en face. Et en plus, accepter de savoir que la réalité que nous voyons n'est pas forcément la réalité. Hein? Attention. Mais je vais pas rentrer dans les débats parce qu'on est là encore 3 heures. Et quand on est malheureux, on fait pareil. On va se voir dans la glace et on se dit, mais qu'est-ce que t'as, ma chérie? Moi, je me le dis, hein, quelquefois. Mais qu'est-ce que t'as, ma biquette? Mais pourquoi t'es mal? Et pourquoi tu pleures? Et t'as fait mal l'autre voisin qui t'a dit une saloperie, c'est ça? Oui, il m'a fait mal et je voulais lui casser la gueule. Eh ben, vas-y. Ah non, je peux pas, j'ai une moralité, je peux pas faire ça. On peut aller se dire des mots doux dans la glace. Après, je dis, bon ben, je vais pas lui casser la gueule, mais je vais crier un bon coup. Et c'est ce que je fais. Mais dans ma salle de bain. Éventuellement sur un coussin. Mais je vais pas casser la gueule au voisin. Je vais juste vivre ce que j'ai à vivre et me consoler. et me prendre dans mes bras. C'est pas facile dans la glace, hein. Mais il suffit de faire ça. Et vous prenez dans les bras et vous vous bercez comme ça. Alors moi, je rajoute un nez de clown, quelquefois, ça sert, hein. Je vois Pierrette qui est clown aussi. On rajoute un nez de clown et ça aide bien. Imaginez la vie que l'on aurait si, par rapport à l'amour de soi, on arrêtait de se comparer. Du coup, plus de survalorisation, de dévalorisation, il est plus beau, plus belle, plus intelligente, plus grande. Si on arrêtait de se juger et de juger à tout bout de champ tout le monde. Mais déjà en commençant par soi. Le jugement, c'est la condamnation, la damnation collective. Ça, c'est le péché. Si on n'écoutait plus les petites voix intérieures qui nous sabotent la vie. Je suis nul, j'y arriverai jamais. Il faut les faire taire. L'autre jour, je suis partie, j'avais carrément oublié ma conférence que je venais d'imprimer. Et je me suis dit, je suis con, j'ai oublié ma conférence. Et après, je me suis dit, non, t'arrêtes de dire je suis con. Dites, ma chérie, tu as encore oublié quelque chose. Être déjà plus doux avec soi-même. Non, mais j'ai l'air de plaisanter comme ça, mais si vous saviez à quel point on n'arrête pas de se dire des choses. Alors, arrêtons. Arrêtons de nous identifier à qui nous ne sommes pas aussi. Genre, qui je devrais être pour faire plaisir à papa, maman, le patron. Ou pour être quelqu'un de bien, je devrais... Vous êtes quelqu'un de bien déjà maintenant. Même si vous étiez un assassin. Parce que vous avez fait ce que vous avez pu. Arrêtez de se condamner. Qui suis-je n'est même pas la bonne question à se poser. Vous n'avez pas besoin de savoir qui vous êtes pour vous aimer. Vous n'avez même pas besoin de vous poser la question pour vivre, pour exister, pour être là au présent. D'accord ? Par contre, quelle personne ai-je envie d'être pendant mon bref passage sur cette planète ? Et à quoi est-ce que je pourrais bien servir dans ce monde ? Ça, c'est déjà plus intéressant. Moi, ça fait un moment que je me pose plus la question. Je me dis, eh ben, je fais ce que j'ai à faire. Et faites-le. Hein? Je sais plus si c'est toi, Michel, ou je sais plus qui disait quelque chose. J'ai pas pu m'empêcher l'autre jour de dire à ces gens qui se comportaient d'une manière irrespectueuse. Je leur ai dit, et je leur ai dit avec force. Quelquefois, quand on dit des choses avec puissance, avec détermination, ça passe. On n'est pas obligé de hurler. Quelquefois, il faut apprendre à dire stop, ça suffit. Avec un seul regard, en 30 secondes, on peut arrêter un comportement déplaisant. Même avec un enfant. Ou avec son conjoint, s'il n'est pas gentil. Ou gentil. Imaginez un monde où le mental ne nous pousserait pas à vouloir être toujours le plus fort et le meilleur. Pourquoi faire? Si nous étions nous-mêmes. Moi, j'ai découvert un truc avec le clown, qui est être soi-même, naturellement. Waouh, ça vous aide vachement à vous aimer vous-même déjà. Donc essayez de vous accepter. Et puis il faudrait aussi arrêter de nous mentir et de nous cacher nos imperfections. On n'est pas parfait. Que d'énergie passée à cacher nos misères. Regardez, le monde cache les misères. Moi j'étais en Inde quand j'étais jeune et il s'est passé une chose étonnante. Vous savez, en Inde, ils ont les handicapés, les mendiants, les gens qui sont dans les rues et qui n'arrêtent pas de vous solliciter pour vous demander des sous et de l'argent, enfin, à manger même. Il a fallu que j'aille en Inde pour voir en face ce qu'est la misère. Et je me disais, mais nous, en Occident, on cache tout. Alors maintenant, on a un peu de mal. Il y a de plus en plus de SDF. Il y a de plus en plus de... La misère commence à déborder. C'est gênant. Ça fait tâche. Et nous, on a le même comportement avec nous-mêmes. Hein. On essaye de cacher ce qui ne va pas. Hein. Moi, j'ai longtemps marché sans canne pour pas dire que j'avais mal. Maintenant, j'ai acheté un truc, on voit bien. Là, je cache plus rien du tout. Voilà. Et la misère en Inde, elle m'est arrivée, et ça, c'est une expérience que j'aimerais vous dire par rapport à la violence. Parce que j'aimerais quand même vous laisser un petit quart d'heure pour parler. J'ai rencontré en Inde, parmi les milliers de mendiants, un jour sur la place de Madras, il y avait une femme qui s'est approchée de moi et qui était complètement déformée au niveau du visage, complètement déformée dans ses os, dans sa peau. C'était l'horreur, c'était la misère incarnée. Je l'ai à peine aperçue et je voulais pas la voir, je voulais pas la regarder. Et elle me disait, Mimsab, 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 donne-moi quelque chose. Et elle me poursuivait sur la plage, poursuivait littéralement. Et moi, je voulais pas la voir. Et j'étais comme ça, en train de dire, ça suffit. Même le chauffeur de taxi qui m'accompagnait l'a engueulé pour qu'elle s'en aille. Et j'ai entendu, Mimsab, quelque chose qui mourait. Qui mourait dans sa voix. Et je suis rentrée le soir, j'ai oublié la mendiante. Et je me suis couchée, et là, j'ai la voix qui mourait, qui m'est arrivée, en plein dans le cœur, toute la misère de l'Inde, que j'avais même pas vue la première fois que j'étais allée, ou que je ne voulais pas voir, que je ne voulais pas regarder, toute la souffrance du monde, toute la souffrance du monde venait de m'ouvrir, là, au niveau du cœur. Et en fait, si on veut vraiment dépasser la violence de ce monde, acceptons de la laisser pénétrer dans nos cœurs. Et avec notre amour, ça s'appelle la méditation du Bouddha, on peut lui envoyer de la lumière, profitons-en tant qu'elle est là, pour lui envoyer notre lumière, la lumière de notre phare, pour la transmuter et la laisser ressortir en nuée d'amour. En fait, nous avons de la violence qui nous arrive sur la tronche sans arrêt parce que nous la refusons, parce que nous refusons de la voir, parce que nous refusons
la peur de souffrir. Si nous voulons refaire l'unité, laissons entrer la sensation de la souffrance dans nos cœurs. Acceptons notre ressenti. Acceptez de laisser entrer la souffrance, de sentir la peur et tout ce qui nous traverse, c'est la meilleure manière de la transmuter en amour. Et ensuite, par une alchimie intérieure, l'alchimie du cœur, de la redonner au monde. Il n'y a pas de honte à pleurer, il n'y a pas de honte à se mettre en colère, il n'y a pas de honte à s'indigner. Mais sachons nous indigner et en même temps, sachons aussi laisser entrer cette souffrance pour pouvoir la transmuter dans le cœur. Cette voix que j'ai entendue sur la plage de Madras m'a littéralement ouvert le cœur comme avec un couteau. Et si l'émotion remonte quand j'y pense, c'est que j'ai passé 24 heures à pleurer non-stop. Je ne pouvais plus m'arrêter. J'aurais bien aimé que quelqu'un vienne fermer les vannes. Je n'en pouvais plus de sentir cette souffrance. Mais le plus dur, en fait, c'était de combattre contre le ressenti. J'ai eu l'impression que la souffrance de l'univers tout entier me traversait, un peu comme les Hébreux qui traversent la mer Rouge. À partir de ce jour-là, j'ai décidé que désormais, j'écouterai au fond de moi, d'une part, la voix de ma propre misère, et que j'accueillerai la misère du monde de la même manière. Alors, entre nous, ce n'est jamais gagné, ce n'est jamais facile. La tentation de se refermer pour se protéger revient tout le temps. Mais ce n'est pas grave. On est là sur cette terre, je pense, pour évoluer et apprendre aussi à regarder la réalité en face. Finalement, c'est le seul moyen. Regarder la réalité en face laisse dans le cœur une brûlure. C'est ce que disait Simone Veil. Alors, oui, quand on regarde la violence, on peut avoir peur. Mais d'accord, ayons peur un bon coup. Et à partir de là, décidons d'agir, de faire ce que nous avons à faire. Vous l'avez compris, nous pouvons commencer par nous, en reprenant le pouvoir sur notre mental, sur nos émotions. On a déjà beaucoup de travail avec ça. Quant à la peur de la mort, comme disait une amie, c'est une question de présentation. Avons-nous été présentés à la mort? Certains parlent de l'initiation de la mort. J'ai été, en ce qui me concerne, initié, ou en tout cas présenté à la mort à 4 reprises. La première à 6 ans, lors de la mort de ma mère. Ensuite à 12 ans, j'ai failli me noyer dans des sables mouvants. Puis à 18 ans, dans un accident de voiture. Et à 36 ans, j'ai encore failli me noyer. Vous l'aurez peut-être remarqué, il y a vraiment des cycles. Parce que moi, tous les événements importants se sont produits lors de multiples de 6. C'est-à-dire ma première initiation. Les deux premières, je les ai subies. La quatrième fois, à 36 ans, j'étais en train de me baigner. J'avais plus exactement plongé parce que je ne supportais plus le mal de mer. Et j'étais à 2 heures du large et je voulais rencontrer les dauphins. Ma mère était agitée. J'ai fini par plonger pour ne plus sentir cet horrible mal de cœur. Et je me suis éloignée du bateau. À un moment donné, je ne pouvais plus rentrer. Et j'avais beau faire des signes, personne ne me voyait. J'ai tout d'un coup regardé le fond de l'océan. Il y avait un banc de sable pas très loin, en fait. Et puis, à un moment donné, une grande raie manta est passée sous moi, immense. Peut-être comme un ange. Je ne sais pas si c'est sa présence qui m'a apaisée, mais je me suis dit, et alors? Et alors? What else? J'ai totalement accepté. Donc en résumé, ce qui est très important quand même, si nous voulons pouvoir mourir tranquille et arrêter d'avoir peur de la mort, c'est d'abord d'être au clair avec nous-mêmes le plus souvent possible. Si nous devons partir un jour, autant avoir fait le ménage et l'avoir fait au fur et à mesure, pour ne pas trop laisser de regrets ou de choses derrière nous. Donc la première chose, c'est aussi l'objet de tout ce que je viens de dire, c'est apprendre à se réconcilier avec soi. Et ensuite se réconcilier avec les autres. Avec ceux peut-être que vous avez offensés. Apprenez à leur demander pardon. En ce moment, je suis beaucoup sur le Notre Père qui me revient dans la tête. Pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. C'est une phrase, au fond, qui est une sorte de mantra pour moi, qui me permet tous les jours de me dire, est-ce qu'il y a des choses que j'ai encore laissées de côté, soit en moi, soit vis-à-vis de mon environnement, mes amis, les autres. Parce que finalement, demander pardon aux personnes que l'on a offensées, à la limite, on peut y arriver. À condition de lâcher le désir de vengeance, bien sûr. Mais avouez quand même que c'est un grand pas pour l'humanité si nous parvenons à lâcher le désir de vengeance. Et c'est pas toujours facile quand on a été blessé. Mais le plus dur pour moi, c'est se pardonner à soi-même. Ça, c'est vraiment très difficile. C'est difficile, et vous l'avez compris, c'est par là qu'il faut commencer. Être responsable, c'est avoir la réponse à la situation, mais c'est aussi, souvenez-vous, la sponsa, la fiancée, ce mot caché au cœur de responsable, qui signifie la réunification avec soi-même. Et pour moi, aujourd'hui, et j'en finirai avec ça avant de prendre des questions, c'est en passant par cette réunification, par cette union sacrée à l'intérieur de moi, par ce pardon que je peux me réconcilier avec le monde et être enfin libre de laisser mon être profond, ce que je suis en profondeur, agir pour le monde et pour la paix. Je vous remercie.